La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Amour, médecine et correspondants de guerre, c'est le thème de ce 10e épisode à la guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Félix Fournier, il y a beaucoup d'histoires qui ont tourné en fait autour de ces trois thèmes-là et des histoires adorables, succulentes et que l'on aime entendre.
Et aussi des très tristes, spécifiquement dans la section médecine.
C'est impossible de parler de guerre sans avoir quelques déchirements de cœur à quelque part.
Mais effectivement, c'est quand même l'épisode le plus guilleret de toute la série parce qu'on va parler de ce qui s'est passé après la guerre puis des gens qui sont revenus puis qui ont trouvé l'amour.
Qui ont trouvé l'amour pendant la guerre ou tout de suite après leur retour?
Il y en a de toutes les sortes. C'est des histoires magnifiques. J'ai tellement hâte de vous les conter. Puis je vais faire une petite parenthèse en commençant parce que je suis l'homme des parenthèses en commençant. On n'a pas parlé beaucoup des femmes. On va en parler quand même un peu dans cet épisode-ci. Mais juste pour vous dire que ils ne seront pas oubliés dans l'épisode bonus. Je vous parlerai en long et en large de tout ce que j'ai pu colliger sur les participations des femmes à la guerre, dont Elspeth Russell.
Qui est un dérivé d'Elisabeth que tu me disais.
Exactement, sa version écossaise, si ma mémoire est bonne. C'est une femme qui a passé une grande majeure partie de sa vie à Matane, qui a fondé Matane Air Services, une compagnie aérienne, avec son mari qu'elle avait connu durant la guerre, histoire d'amour aussi. Elle ne pilotait pas des avions de chasse au combat, mais elle va avoir livré 291 appareils parce que les fabriques d'avions vont être souvent dans le nord, en Écosse, et elle va les apporter vers les aérodromes dans le sud de l'Angleterre.
Un travail important.
Oui, surtout qu'elle va piloter le Spitfire Supermarine, l'avion qui touche au cœur tous gens qui ont embarqué un jour dans un avion et qui ont eu la chance de piloter comme moi.
Alors ça s'en vient dans un prochain épisode.
Ça va dans l'épisode bonus. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur Elspeth Russell et bien d'autres histoires.
Mais maintenant, amour, médecine et correspondant de guerre, on va parler de ce qu'on appelle les marraines de guerre. C'était quoi ces fameuses marraines-là et c'était quoi leur rôle?
Ça a commencé durant la Première Guerre mondiale. C'était vraiment pour subvenir aux palliers au manque de morale, on pourrait dire, chez les soldats, les troupes. La Première Guerre mondiale étant ce qu'elle était, une guerre de tranchées. Souvent, les jeunes qui étaient des jeunes soldats n'étaient pas encore mariés ou n'avaient pas d'amoureuse ou de personne. Puis des fois, la famille qui était restée, faut déjà que ta famille sache écrire pour pouvoir correspondre. Mm-hmm. Donc, ces personnes-là étaient recrutées. Ça a commencé fin 1914, début 1915. Puis ça va être une longue tradition qui va se poursuivre durant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, personnellement, je suis tombé avec mon frère. Mon frère, petite histoire courte, mon frère avait racheté la maison de mes arrière-grands-pères, qui était mon arrière-grand-père Patrick Roy et sa femme Véronique Bernacci. Et mon arrière-grand-mère Véronique avait, durant la Première Guerre mondiale, écrit beaucoup de lettres à un soldat belge. Puis on est tombé là-dessus, moi et mon frère, assis à terre dans le plancher en train de lire les... Puis c'était magnifique.
Est-ce que ta grand-mère avait une belle plume, ton arrière-grand-mère?
Oui, elle était professeure, elle était très éduquée pour l'époque. C'était une femme très forte, on pourrait dire très autonome et indépendante. Très tôt, elle va avoir un restaurant avec un pool room, une salle de billard à Pointe-à-Frégate, dans laquelle elle va servir de la crème glacée sur du 7-Up. Ceci n'est pas une plug.
Un flotteur, comme on appelle.
Exactement. Et il restera de cette salle de billard un magnifique jukebox Wurlitzer en 1953, que malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'hériter de.
Message à tous.
Donc, pour notre correspondance de guerre continue, un cas de correspondance de guerre qui a fini en amour.
Oui, parce qu'il y a certaines qui ont trouvé époux.
La majorité n'ont pas.
Ça ferait beaucoup
de monde. C'est ça. Ça n'a pas été la sortie. Nonobstant aussi le fait que tu n'avais pas nécessairement à rencontrer quelqu'un de Petite Vallée, que j'ai une histoire que je ne connaissais pas. Madame Kathleen Robson, qui est partie de Londres et qui est venue s'installer à Petite-Vallée. Elle a écrit, c'est un extrait du magazine Gaspésie, mais qui a été fait à partir de son livre « L'amour en héritage » qu'elle a écrit en 2007, peut-être un peu avant, parce qu'elle est décédée dans cette période-là. Elle a rencontré M. Auguste Fournier de Petite-Vallée, qui était combattant en Europe, soldat. Personne qu'on n'a pas parlé durant la chronique. Si je trouve plus d'informations sur lui, sûrement, parce que C'est quand même des fournis Petite-Vallée.
Hein, tu les connais bien.
Ce n'est pas la même souche de fournis que moi, mais on est relativement proches géographiquement. Donc, Mme Robson, c'est ça, rencontre à l'automne 43, après avoir écrit quelques lettres à M. Fournier. Et elle va déménager après la guerre à Petite-Vallée. Et elle mentionnera que le choc culturel commençait. Nous étions ensemble et c'est tout ce qui comptait. Enfin, nous sommes arrivés à la gare de Gaspé. J'étais habitué au petit train électrique de banlieue en Angleterre qui allait très vite et gros diesel me paraissait très lent et bruyant. Il y avait deux personnes qui nous attendaient à la gare. C'était M. Élisée et Mme Cécile Fournier, les parents sûrement de Auguste. Et nous sommes dépêchés d'entrer en taxi. Et commençait la dernière étape du voyage. La conversation devenait de plus difficile, d'autant plus que j'avais un peu de difficulté à comprendre le parler des gens. Mon oreille n'était pas faite à l'accent gaspésien.
C'est vrai que c'est un immense choc culturel, déjà de passer de la langue anglophone anglaise à la langue française. Et le changement de culture devait quand même être aussi drastique.
Autre personne qui m'a parlé de ça, j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années Mme Diane Sawyer, qui est de New Carlisle, qui, elle, a vécu la guerre. Je sais que c'est une période... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'étais persuadé qu'elle avait connu l'amour durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'ai colligé les informations. Mais il s'est avéré que son mari n'était pas un vétéran, il était beaucoup trop jeune. Donc, elle s'est envenue dans un épisode plus loin dans le temps. Mais quand je l'avais rencontrée, j'ai eu la chance, elle m'a décrit sa guerre, ce qui était quand elle était native des îles Jersey et Guernsey. Sujet très intéressant pour nous.
Podcast à suivre.
Oh, podcast à suivre. C'est ça, donc, Mme Diane Sawyer était quand même relativement jeune à l'époque. Son père avait immigré à Jersey, aux îles anglo-normandes, à partir de Londres. Elle était de première génération native de Jersey. Puis elle me contait, parce que les îles vont être prises, c'est la seule possession britannique qui va être prise par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il va y avoir une occupation tout de suite après l'occupation de la France, puis qui va durer jusqu'à la reddition de l'Allemagne le 8 mai 1945, parce que, on se souvient du débarquement, les Alliés ont contourné les îles Jersey. Et ne sont pas attaqués parce que les îles étaient extrêmement fortifiées. C'était un petit lieu et de façon stratégique, c'était pas nécessaire d'y prendre pour le coût humain que ça aurait servi. Donc, Mme Diane Sawyer me contait qu'elle parcourait la campagne avec son frère en vélo durant les fins de semaine en essayant de trouver des pommes de terre dans les fossés afin d'avoir quelque chose à manger.
La vie devait pas être facile.
C'était extrêmement dur parce que justement, plus ça allait, en plus la guerre, les Allemands avaient de moins en moins de rationnement. Donc, s'il y a moins pour les troupes qui occupent, imaginez pour ceux qui restent. Et elle me parlait, témoignage que je ne pensais jamais entendre de ma vie, il y avait beaucoup de travailleurs forcés qui étaient soviétiques, des prisonniers du front de l'Est.
Qui étaient ramenés là-bas?
Qui étaient ramenés pour faire les défenses, le mur de l'Atlantique Nord qu'on a parlé au dernier épisode. Mm-hmm. Cette fortification qui devait empêcher justement les Alliés de débarquer en France. Donc, elle dit, ces personnes-là, on leur donnait de la nourriture en cachette. Elle dit, on avait extrêmement peu de nourriture, mais elle dit, le petit peu qu'on avait, on essayait de le partager. Puis, ce partage-là était, vous pouviez avoir la peine de mort pour ça, parce que si... un habitant de Jersey était pris à donner de la nourriture aux travailleurs forcés soviétiques. C'était la peine de mort directement là, par les soldats allemands. Elle me contait ça avec beaucoup d'émotion. C'était effectivement quelque chose de... Puis finalement, ils ont été libérés. Puis ils ont pris la vie. Elle a connu quelqu'un, un Gaspésien, qui n'était pas soldat. Puis elle est venue s'installer elle aussi à New Carlisle. Et elle racontait que... Il lui avait dit, chez nous, il neige un peu.
Euphémisme.
Elle a dit, au 10e pied de neige, le premier hiver, j'ai comme fait, ça, c'est un peu.
Si tu vas.
Puis elle aussi, comme Mme Robson, était un peu marquée par le...
Le clash de culture.
Exactement. Il y avait beaucoup plus d'anglophones, ça, c'était correct pour elle. C'est... au niveau dans la section.
Pour s'adapter.
C'est ça, mais elle dit toute la technologie qu'on avait en Europe, qu'il n'y avait pas encore ici, c'était tout comme un moment d'adaptation.
Il fait maintenant lui-même partie des personnages de ce podcast et il y a également participé, M. Fabien Sinette, qui est historien. On a parlé de sa famille dans les autres épisodes. Mathias et Léonard Sinette.
Ça, c'est les frères de M. Fabien Sinette.
Ah, les frères?
Oui. Mathias Sinette, qu'on a beaucoup parlé lors de la campagne, M. Sinette a parlé du débarquement de Normandie, parce que lui était... dans l'artillerie. Mm-hmm. Ce qu'on n'a pas mentionné dans la capsule, c'est qu'il s'est aussi fiancé en Europe avec une Anglaise. Malheureusement, le retour étant plus complexe que prévu, les fiançailles
sont interrompus.
Et M. Sinette va se marier avec une fille de Gaspé. Il va passer sa vie ici. Mm. Et autre... une histoire d'amour digne du patient anglais. M. Léonard Sinette, l'autre frère de M. Fabien Sinette, lui, il était à l'entraînement à Québec. Ça va être une histoire longue, mais je vais essayer de faire ce cours pour vous. Donc, M. Léonard Sinette, qui est à l'entraînement, se blesse avec une grenade au phosphore. Le phosphore a effet de brûler très profondément. Donc, ça va l'handicaper, ça va lui brûler les deux avant-bras, les deux mains. Il va être à l'hôpital pendant presque une année, sous les soins d'une infirmière qui s'en occupe. Jusque-là, ça...
c'est banal.
M. Fabien Sinette, quelques années plus tard, malheureusement, contracte la tuberculose. M. Sinette étant ce qu'il est, il cherche dans les journaux, il cherche dans les livres, il essaie de trouver ce qui se fait de mieux dans la... pour guérir la tuberculose, parce qu'il est un peu tanné à 20 ans, 19-20 ans, de perdre 2 ans de sa vie, les 2 belles années,
ben oui,
en confinement. Parce qu'à l'époque, il était confiné pour de vrai, les autres. Là,
Il n'y avait pas de sortie nulle part.
C'est ça. Donc, M. Fabien Sinette cherche, trouve une opération qui est faite à Boston, clinique Mayo, dans laquelle on peut enlever un lobe, le lobe le plus attaqué du poumon, pour justement guérir de la tuberculose. Le médecin lui dit oui, c'est bien beau, mais à l'époque, il n'y avait pas EMA Québec.
Pour les transfusions de sang.
Exactement. Donc, vous deviez vous-même trouver une personne pour vous donner le sang.
Membre de la famille, idéalement, pour avoir le même type de sang?
Ouais, non. Il savait quand même déjà faire les tests là, pour les groupes sanguins. Donc, M. Sinette, débrouillard comme pas un, passe une petite annonce dans le journal à Québec, dans le Soleil, recherche tel groupe sanguin. Pas longtemps après, il y a une infirmière qui débarque. Puis elle rentre dans la chambre et elle dit « Ah, elle dit non, elle dit c'est pas lui. » Là, M. Sinette regarde et dit « Pourquoi je suis pas lui? » C'était l'infirmière qui avait soigné Léonard Sinette.
Et elle pensait que c'était peut-être lui.
Oui, exactement. Puis elle venait le voir. Fait qu'elle prenait des nouvelles de son frère Léonard. Puis elle demandait comment il s'en était sorti. Parce qu'il avait eu une année de traitement à la morphine à cause des brûlures très intenses. Monsieur Sinette dit, ben, c'est pas facile le retour. C'est ça. Il, de travailler de ses mains, il peut pas. Fait qu'il... Puis Monsieur Sinette me contait cette histoire-là. Puis elle écrivait les lettres. Parce que M. Sinette, il dit, c'est vous l'infirmière qui écriviez les lettres parce que son frère ne pouvait pas écrire, bien sûr, ses deux mains étaient brisées. Puis là, je regarde M. Sinette, je dis, avez-vous compris? Elle était vraiment tombée en amour avec votre frère. M. Sinette dit, ben oui!
Oh, c'est beau comme histoire. Est-ce qu'ils ont été réunis?
Non, c'est ça, ils ne sont pas revus, mais M. Sinette, il a donné des. M. Sinette a sûrement eu une correspondance avec. On reste dans la famille Sinette parce qu'ils ont tellement d'informations et ils ont tous fait la guerre. Donc. Pour ça. Il y a un Jérémy Sinette qui est le cousin du père de Fabien, si ma mémoire est bonne, ou son frère. Puis lui, ce monsieur Sinette-là, a fait la Première Guerre mondiale. Et il va trouver l'amour en Angleterre. Il va se marier avec une femme qui s'appelle Ida Marie Nichols. Il va revenir s'établir à Gaspé. Il va avoir un garçon. Enfin, il va en avoir plusieurs. Dont Albert et Lewis. Lewis Sinette, bien connu dans le monde de la Deuxième Guerre mondiale en Gaspésie, parce que c'est lui qui est posé sur le sous-marin allemand qui a été capturé en uniforme devant le drapeau de la Kriegsmarine. Épisode bonus, on vous met ça en visuel pour être sûr que vous voyez ça. Et Albert, le cousin de M. Sinette, va poursuivre la tradition familiale en se mariant avec Marjorie Steele, une autre Anglaise qui va venir s'installer à Gaspé, elle aussi. Puis ils vont avoir une série d'enfants.
Amour, médecine et correspondant de guerre, la médecine dans tout ça, est-ce que tu as des bonnes histoires pour nous?
On a de la médecine, mais on a encore un peu d'amour. Si on va parler d'un néo-gaspésien, quelqu'un qui est venu s'installer ici, qui n'est pas natif, mais qui a eu dans le secteur du Gaspé Nord, d'où je viens, Grande-Vallée, dans l'enclave de l'Estran, on pourrait dire entre Grande-Vallée-Saint-Yvon, c'est quelqu'un qui a eu très grande importance parce que quand il est venu s'installer comme médecin, ça a permis d'avoir le CLSC. Parce qu'à l'époque, il y avait, c'était encore les dispensaires. Là. Mm-hmm. Ça a vraiment l'air de la préhistoire quand on dit ça, là, mais non, c'était encore ça. Comme ils ont eu un médecin résident pendant 2 ans, ça lui a permis d'avoir le CLSC qu'on a encore à Grande-Vallée. Et cette personne, c'est M. Émile Melançon. Peut-être que ça vous dit peu de choses pour les gens du restant de... Mais c'est le grand-papa de Marie-Pierre Arthur.
Pour
la petite histoire.
Le grand-père maternel, si je ne me trompe pas.
Exactement. Donc, M. Émile Melançon est né en Nouvelle-Écosse, dans la paroisse de Sainte-Anne-du-Ruisseau, dans la partie francophone acadienne. Son père était médecin. Il va faire sa médecine lui aussi. La première fois qu'il va venir en Gaspésie, ça va être pour les célébrations du 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier en 1934. Puis sa mère va peindre une série de paysages de Gaspé, la baie, puis en tout cas, quand même de bien belles choses qui appartiennent encore à Mme Gisèle Melançon, sa fille, qui demeure à Grande-Vallée. Monsieur Melançon fait sa médecine comme son père, comme je l'ai dit, s'enrôle dans l'armée canadienne, mais à Québec, tout de suite après avoir fini son cours à l'Université Laval. Et il est recherché par l'armée canadienne en Nouvelle-Écosse comme déserteur, alors qu'il est déjà enrôlé dans l'armée. Et durant sa période d'entraînement, il va connaître Georgette Chiasson, avec qui il va correspondre, une très, très grande correspondance, qui a encore aussi, existe encore aujourd'hui. Justement, j'ai eu la chance d'y voir. Et comme nous sommes très chanceux ici à Radio-Gaspésie, nous avons même la chance d'entendre Marie-Pierre Arthur nous lire un extrait de ses lettres d'amour de son grand-père Émile et de sa grand-mère Georgette.
Bonjour, c'est Marie-Pierre Arthur. Félix m'a demandé de vous parler de mon vécu. En fait, moi, j'ai aucun vécu, évidemment, avec la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai deux grands-pères qui sont passés par là, les deux dans des contextes différents. On a parlé de Firmin à la 10e épisode, qui était mon grand-père paternel. Puis là, ben, je suis avec ma mère pour vous parler un peu de mon grand-père maternel. Eux autres, ils s'étaient inscrits comme volontaires, tous les deux, mes deux grands-pères, pour participer à la guerre. Je vais vous lire un petit bout. Mon grand-père avait une correspondance avec ma grand-mère qui s'appelait Georgette et lui, Émile, et ils s'écrivaient comme ça un petit peu pendant ce temps-là. Je vais commencer par ça, tiens. C'est une traduction, ça me tentait pas tant de vous le lire en anglais, fait que je vous l'ai traduit pour l'occasion. Ça dit ça. Est-ce que je t'ai oublié? Pas encore. Et comme tu le pensais, je ne suis pas mariée, ni ne le serai avant longtemps encore. Pas avant la fin de la guerre, certainement. Avec qui? Voilà la question. Je ne peux pas répondre maintenant. Ça, c'était dans une des lettres. On était au début, si je comprends bien, pas mal. Hein?
Oui, c'est ça.
C'était. Puis l'autre aussi, le bout où j'ai pogné, on sent qu'il n'y a pas grand-chose installé encore.
Non. C'était au début de leur...
Ils sont comme pas encore...
leur relation. Là.
Ils sont comme pas game de se cruiser encore.
C'est ça. Ça viendra un petit peu plus tard.
Oui. L'autre, ça dit... tu me demandes une photographie. Rien ne me ferait plus plaisir que d'acquiescer à ta demande. C'est quand même bien tourné.
Oui,
c'est quand même bien. Officiel, en fait.
Oui.
Mais hélas, je n'en ai aucune. Peut-être pourrais-je en avoir une de chez nous qu'on m'a fait prendre de force pendant ce dernier congé. Aussitôt reçue, je te l'enverrai, mais tu peux bien m'envoyer la tienne. C'est cute quand même.
Ben oui.
Oui. Mais il était pas trop demandant. Là. Tu pourrais bien, tu sais, il était pas comme je...
Oui.
Il était encore sur les breaks, les deux.
C'est ça.
C'est cute en maudit.
Oui.
Oui. Puis toi, tu as une histoire pas écrite de grand-père.
Oui.
Mais on sait pas trop si c'est vrai. Hein?
C'est ça. Grand-papa, c'était... ton grand-père, c'était quelqu'un qui aimait jouer des tours, faire des farces. Il nous en a raconté des histoires du temps de la guerre, mais on n'a jamais vraiment su...
Lesquelles étaient vraies et lesquelles n'étaient pas vraies.
C'est en plein.
C'est vraiment
ça.
Pas fin de vous
non,
passer dans le néant.
C'est ça. Mais c'était sa façon à lui, je pense, de dédramatiser
ça ludique, ouais.
Tout ça. Puis, en étant capitaine... Il recevait des invitations à des soirées de danse. J'en ai une ici qui date du fin de la guerre.
Ah, c'est une invitation?
Oui, c'est une invitation à une soirée de danse, une danse de la victoire à Utrecht.
OK.
En 1945, excuse. Okay. Puis, quand je vois ça, ça me fait penser à l'histoire qu'il nous avait racontée.
Qui est vraie, probablement.
Ben, il y a certainement un petit bout de vrai, là, dans cette histoire.
C'est peut-être tout vrai, et
c'est
tout.
C'est peut-être tout vrai. C'est ça que je te dis, on ne l'a jamais vraiment su. On avait une tendance à dire, ben là, papa, là, hein, charrie pas, là. Mais quand il est arrivé en Angleterre, au début, lui est arrivé dans les, en 41, début 42, il y avait des soirées de danse organisées, encore des balles, pour divertir les soldats, pour, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, il nous a dit que il avait dansé avec la reine d'Angleterre. Elle n'était pas reine en ce moment-là, mais ça lui faisait plaisir de dire qu'il avait dansé avec la reine d'Angleterre parce qu'elle avait travaillé beaucoup là, au niveau des forces armées anglaises. Ben, le Canada était intégré aux forces anglaises.
Qui sait, il a peut-être même frenché la reine.
On sait. Ben, il n'a pas été jusque-là. Il n'a pas été jusque-là. Mais il nous racontait qu'il avait dansé avec Élisabeth II.
Ah, mais c'est vrai, c'était pas encore la reine.
Non, elle a été nommée reine en 52.
Merci beaucoup à Marie-Pierre Arthur et à Gisèle Melançon, qui est la maman de Marie-Pierre, pour nous avoir fait ce beau témoignage-là.
Qu'est-ce qui va nous rester de les histoires, la correspondance d'amour, bien sûr, mais aussi M. Melançon a conservé et a pris une quantité phénoménale de photographies dans lesquelles il détaille son parcours en Europe. Quand il est justement qu'il va de l'Angleterre où il arrive le 16 juillet 1943, il va passer une partie du temps en Écosse, puis ensuite il va avoir des photos durant ses permissions où on va voir Paris, on va voir un peu des photos de la Hollande, mais surtout puis aussi des photos de l'Allemagne, ce qui est très très impressionnant parce que malgré tout ce qu'il a vécu comme médecin, et ça c'est on a un témoignage quand même limité. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup de ça. Lui, il a continué sa carrière de médecin après la guerre. Quand il est venu s'installer, il a continué et finalement venir s'installer et décéder quand il va être à Grande-Vallée. Des souvenirs de sa famille, il y a surtout ce qu'il mentionnait, le peu qu'il mentionnait, il parlait beaucoup de l'épuisement et de la solitude. C'est ça, des heures de peut-être 20 heures sur 24 heures.
Lui, son équipe devait être plus restreinte aussi. C'est pas comme les soldats qui ont leurs frères d'armes, tout ça. Lui, en étant médecin, s'il était chanceux, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, mais pas nécessairement non plus.
Exactement. Donc, il va travailler des corps de travail, c'est ça, qui vont être près de 20 heures par jour sur 24 heures, avec des méthodes de médecine où ce que quand vous avez plus d'analgésique, vous utilisez de l'alcool.
Quand on dit médecine de guerre, ça vient de là.
Exactement. Hein? Les amputations, on sait que c'était... Non, c'était...
Des images qui doivent marquer aussi très longtemps par la suite.
Ouais, je pense que c'est ce qui doit être le plus dur psychologiquement, parce que c'est souvent... Ces gens qui vont avoir fait ça vont être très marqués psychologiquement. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait aucune espèce d'idée de ça, comme on a parlé souvent. Mais... Le manque de matériel, vous manquez de tout pour soigner des jeunes. Là. C'est des gens de votre âge là, que vous voudriez vraiment sauver. Là.
Qui ont des vies en dehors de la guerre aussi,
c'est ça,
puis on le sait.
Qui espèrent retourner. C'est ça, la solitude, parce que les gens passent puis ils restent pas avec toi. Là, et...
Même s'il y a des gens autour, la solitude vient peut-être aussi du fait que tu veux pas raconter ces atrocités-là aux autres pour pas leur mettre aussi des images en tête.
Exactement. Il y a des histoires d'horreur au niveau des médecins, parce que c'est ça, pas lui spécifiquement, mais on parle dans tous les gens qui ont vu la série Band of Brothers se souviennent que le docteur de la série avait tendance à piger dans sa propre réserve de morphine, parce que quand vous aviez travaillé presque 20 heures sur 24 dans une journée,
c'est inhumain, là.
Vous pouviez vous faire une injection pour être comme 4 heures off. Là. Ce qui va entraîner des dépendances au retour. Ouais. Mais M. Melançon reviendra avec un magnifique souvenir. Des souvenirs atroces, mais dans un hôpital allemand. Il va rentrer pour aller justement probablement opérer ou travailler sur des gens. Il va récupérer un magnifique kit de médecine.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le kit de médecine allemand?
Il est tout inscrit en allemand. Il est en métrique.
Oh!
Parce qu'à l'époque, tout était en Europe, c'était déjà dans le système métrique.
Chose qui n'était pas faite ici.
Et non, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est des boîtiers. Je vous mettrai des photos de ça dans l'épisode bonus.
Ça doit être difficile lorsque tu recherches, par exemple, juste l'alcool à friction. Non, c'est quoi? Parce que tu peux pas te donner n'importe quoi non plus.
Lui, ce qui était important, c'était les outils. Parce qu'il était déprivé de puis il y a des bistouris magnifiques. Là. C'est vraiment c'est dans une boîte. Là. C'est du très beau matériel. Puis il a été conservé dans la famille. Fait que j'ai eu la chance de le voir.
Un beau trésor de guerre.
Il méritait.
Parmi les correspondants de guerre, il y avait un Gaspésien qui est devenu très célèbre au Québec. Tu nous parles de...
Je parle de René Lévesque.
si un Gaspésien très connu, c'est bien l'ancien premier ministre.
Exactement. René Lévesque est natif. Sa mère a accouché au Nouveau-Brunswick, mais c'était comme à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux. Parce que souvent, ça ressort qu'il est natif du Nouveau-Brunswick. Là. Moi, je ne suis pas natif de Gaspé parce que je suis né à l'hôpital ici. Je suis natif de Grande-Vallée. Mm-hmm. C'est juste que...
C'est là que tu as grandi.
Et René Lévesque, avant sa carrière politique, va être très jeune animateur de radio à CHNC New Carlisle. À partir de 13 ans, il travaille déjà l'été là. À l'intérieur de son parcours académique, parfois troublé par son... Comment on pourrait dire... son côté anarchique, rebelle.
Passionné.
Passionné. Il sera... renvoyé dans l'école va avoir fumé.
Oh, quand même!
Fait que la guerre étant déclarée, il veut se joindre à l'armée pour être correspondant de guerre. Contrairement à ce que l'encyclopédie canadienne en ligne nous dit, ce n'est pas pour fuir l'enrôlement qu'il va se joindre à l'armée américaine. Bien au contraire, je pense que c'était très risqué de le faire. C'est que il est au Canada, il essaie de se faire prendre comme correspondant de guerre, se faire engager par Radio-Canada parce qu'il travaille déjà à...
En radio.
En radio, c'est ça. Il est très près, justement, de Radio-Canada. Mais il n'y a pas de place pour lui. Il choisit quelqu'un qui a plus d'années d'expérience. Donc, lui, en 1944, il voit l'American Psychological Warfare Department de l'armée américaine cherche des correspondants de différentes langues. Donc, lui, bien sûr, français, il parle un excellent anglais. Là. On... Fait qu'il va être envoyé en Angleterre. Puis, il va travailler avec... il va faire des reportages à la radio de Londres. Ça va être ça, son parcours. Tout ça dans l'uniforme américain.
Allez-vous. Ça fait drôle de penser que René Lévesque a déjà porté l'uniforme américain.
Puis c'est ça, il va être attaché directement aux forces après le débarquement de Normandie, puis il va suivre les troupes. Il va être correspondant de guerre pour peut-être le général américain le plus connu de la Deuxième Guerre mondiale, George S. Patton. Si jamais vous avez jamais pris le film sur sa vie, Patton, je le recommande fortement. Ainsi que le général Patch, qui va être le haut fait de sa correspondance, ou ce que lui va le plus décrire, c'est qu'il va être à l'ouverture du camp de Dachau en Allemagne, le camp de concentration. Qu'est-ce qu'étaient les camps de concentration? Sûr que c'est là qu'ils vont terminer beaucoup de personnes juives vont décéder durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour montrer comment ces camps-là étaient bien avant la guerre et que l'idée de destruction existait déjà, le camp de Dachau a été ouvert en 1933.
Longtemps avant la guerre.
Exactement. C'était pour que les gens se situent. Ils étaient pas loin de, ils étaient dans la Bavière, pas loin de Munich. Il avait été ouvert par, mis en place par l'infâme Heinrich Himmler, qui était le directeur, il était le chef de la SS, l'armée parallèle, qui va avoir les troupes les plus atroces. Puis il va avoir comme les deux champs, des troupes de choc, mais ils vont aussi s'occuper des camps de concentration. Au début, ça va être surtout des prisonniers, parce qu'on va commencer, la population juive sera pas frappée tout de suite au début, mais à l'ouverture du camp, il va y avoir les Tziganes, des gens qui sont d'origine romane, qui vont se promener en Europe. Les homosexuels vont être frappés très tôt pendant l'Allemagne nazie. Il y a aussi tous les contestataires politiques, les personnes âgées qui seront plus en capacité de travailler.
Les personnes non autonomes
vont être éliminées dans des camps comme ça. Et il va y avoir un développement. Le point culminant, c'est ça. Ça va être à partir du début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont servir principalement pour la solution finale, qui est justement l'éradication des Juifs en Europe. Moment très noir de l'histoire de l'humanité. Et René Lévesque sera là à l'ouverture des camps. Et il en gardera un souvenir vivide et on pourrait dire une blessure profonde là, de voir que ce soit les gens qui sont décédés, l'amoncellement de corps, ou que ce soit ceux qui sont survivants, qui sont des espèces de zombies dans lesquels on a presque extrait toute essence d'humanité là, qui va être...
C'est dur de s'imaginer ce que ça a pu être, mais juste de t'entendre raconter tout ça, j'essaie d'imaginer quelque chose qui arriverait comme ça aujourd'hui, et ça serait tellement dévastateur pour l'humain, mais ça a déjà été fait et ça a été en quelque sorte permis pendant longtemps. Ça a commencé en 1933, ça veut dire que ça a pris du temps avant que le reste du monde agisse.
Propos éditorial. Contrairement à ce qui est souvent mentionné, les Alliés étaient au fait des camps de concentration.
Ah oui, c'est dur de ne pas le savoir.
À partir de 1941 ou 1942, il y a des découpures de journaux. Moi, je suis tombé sur des découpures de journaux dans lesquelles ils mentionnent le concept de camp de concentration puis l'élimination systématique des Juifs. Ils ont réfléchi à... C'est sûr, ils auraient pu bombarder les voies ferrées qui étaient avoisinantes au camp. Je sais pas si c'était pas un objectif de guerre. C'est extrêmement complexe et bizarrement, ils remettent souvent la faute sur le pape de l'époque... 12, si je me souviens bien, comme de quoi il n'avait pas intervenu. Je ne veux pas écœurer personne, mais il n'y avait pas d'armée.
Non, c'est ça, les armées papales étaient dissoutes depuis longtemps.
C'était Churchill qui était là, c'était pas Truman, c'était Delano Roosevelt. T'sais, c'était les chefs d'État qui avaient dans leur possibilité de... Mais il se peut toutefois que l'inhumanité de la situation, quand tu ne l'as pas encore vue...
Tu n'y crois pas.
Tu ne crois pas que ça peut être aussi... abjects que ce qu'ils ont vraiment qu'ils ont vu quand ils ont ouvert les camps de concentration.
Ouais, parce qu'on peut pas s'imaginer que des personnes puissent faire ça à d'autres.
C'est l'aberration, c'est le mécanisme, c'est les trains, c'est les camps de travaux forcés, c'est la sélection à l'arrivée. Tout ça, c'est
dégueulasse.
C'est l'inhumanité qui est là-dedans, qui dépasse l'entendement, je pense. Mais que voulez-vous? Donc, c'est ça, René Lévesque va porter ce souvenir-là. Il va quand même être correspondant de guerre pour la guerre en Corée. Il va continuer avant de devenir...
Premier ministre ou politicien, à tout le moins?
Ben, moi, personnellement, je dois dire, et comme je suis un vil procrastinateur, quand je faisais les recherches là-dessus, je suis tombé sur plein d'épisodes de Point de mire. C'est un épisode qu'il faisait à Radio-Canada dans lequel il y avait un tableau vert avec une craie dans les mains. C'était une émission hebdomadaire, si je me souviens bien, dans laquelle il expliquait un conflit ou une situation. Qu'est-ce qui se passait à la grandeur du monde avec son tableau vert et sa craie blanche? Puis l'épisode que je suis tombé dessus, il parlait de pourquoi la guerre d'Algérie avec De Gaulle. Si vous avez la chance d'aller écouter ça, c'était génial. Malgré tout ce qu'il a fait d'autre dans sa carrière politique, moi, personnellement, là, puis j'ai pas vécu ça, je suis beaucoup trop jeune pour les avoir écoutés, mais j'en avais entendu parler, puis la star, maintenant, on peut, avec les archives numériques qu'il y a, aller revoir ce travail de ce célèbre Gaspésien.
La prochaine fois qu'on aura un moment de procrastination, nous aussi, on pourra faire ça. C'est ce qui vient conclure notre épisode Amour, médecine et correspondant de guerre. Félix Fournier, encore une fois, des thématiques avec beaucoup de témoignages. Mais ce que je retiens, c'est la beauté ou ce qu'on retrouve toujours un peu d'amour dans toutes les histoires.
Il ne peut pas avoir juste du noir dans toute cette série-là. Je ne suis pas un être comme ça.
Alors, il nous reste quelques épisodes encore à venir. On vous invite à aller les écouter. Ou si c'est le premier épisode que vous écoutez en ce moment, ben, il y en a 9 autres avant. On vous invite à aller les écouter avec, entre autres, participation de Fabien Sinette, de Tommy Dunn et toujours la tienne, Félix Fournier, qui est toujours très précieuse.
Et la tienne aussi, Émilie.
Oh, mais moi, c'est un plaisir d'être là. Alors, on vous dit à dans 2 semaines. La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Des remerciements spéciaux à Gisèle Melançon, fille d'Émile Melançon, et à Marie-Pierre Arthur, petite-fille d'Émile Melançon, pour leur participation à cet épisode. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section « Podcasts ».